France Culture, 7h-9h, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Il faut que les jeunes soient plus vigilants. Nous n'avons pas encore gagné la guerre. Deux citations extraites d'un entretien accordé hier aux Parisiens dimanche par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Vendredi, son ministère écrivait dans son point quotidien que nous étions revenus à un niveau de cas comparable à celui de la fin du confinement et en appelait à la discipline collective. Attention, voilà donc le mot d'ordre de cet été si particulier. Cet été où plus que jamais, on aurait envie de se retrouver, de profiter et oui, de s'embrasser. D'autant que l'on évoque aussi ces plans de reconfinement à l'étude pour la rentrée ou peu après et qu'il est en question d'activités économiques qu'il est urgent de relancer. Que l'on soit ou non en vacances, difficile de ne pas en parler tout en sachant que l'on ne sait pas vraiment. Difficile de ne pas mettre un « si tout va bien » dès que l'on évoque un projet. Alors sur quoi exactement s'appuie ce rappel à l'ordre de plus en plus pressant? Comment être transparent sans être anxiogène, ferme sans être culpabilisant ou infantilisant? Comment tenir le bon discours au bon moment? Reprise et peur de reprise de l'épidémie, comment trouver la juste mesure? Deux invités avec nous dans les matins d'été. Arnaud Fontanet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur à Paris et membre du conseil scientifique installé au mois de mars. Et Karine Lefeuvre, bonjour.
Bonjour.
Présidente par intérim du Comité consultatif national d'éthique, professeur à l'École des hautes études en santé publique. Arnaud Fontanet, commençons avec vous. Pouvez-vous tout d'abord nous dire actuellement où nous en sommes aujourd'hui en France? Quels sont les différents indicateurs? Que disent-ils? Comment évoluent-ils?
Alors la situation en France devient préoccupante. On a vu depuis la sortie du confinement les différents indicateurs effectivement passer de, pour le nombre de reproductions, le nombre de cas secondaires par personne infectée de 0,7 à 1,3. Je rappelle que quand chaque malade infecte plus d'une personne, l'épidémie reprend. Si ce nombre reste inférieur à 1, elle est en déclin. Et donc passant de 0,7 à 1,3, on est sur une phase ascendante. Et on dénombre aujourd'hui 1000 nouveaux cas par jour sur le territoire français. Il y a certainement, le chiffre est certainement plus élevé, hein, puisque ça, ce sont les personnes qui sont allées se faire diagnostiquer. Et on était passé d'une moyenne de 5 clusters par jour, donc des petits foyers découverts dans les entreprises, dans les familles, il y a à peu près 4 semaines, à maintenant 10 clusters par jour. Hein. Donc on a doublé le nombre de clusters découverts tous les jours. Donc on voit bien que l'épidémie reprend progressivement et vraisemblablement à la faveur d'un certain relâchement des mesures barrières qui jusqu'à présent étaient plutôt bien respectées.
Alors nous allons en parler d'abord concernant les tests. On nous dit plus de personnes testées positives. Oui, mais on fait aussi beaucoup plus de tests. Donc comment on compare? On compare à quoi en fait?
Alors après, ce qui est intéressant, c'est de voir le pourcentage de ces tests qui sont positifs. On considère que si plus de 2% des tests étaient positifs, on rentrerait effectivement dans une période, je dirais pas critique, mais vraiment plus inquiétante. Donc là, on est autour de 1,2-1,3%. Hein. Donc c'est, les choses restent encore raisonnables. On a une capacité de tester jusqu'à 100 000 personnes par jour. On utilise à peu près la moitié, hein, c'est 50 000. Et ce qui veut dire que on pourrait faire plus. Une des difficultés, on le sait tous, c'est l'engorgement des laboratoires dans certaines régions de France, hein, notamment en Île-de-France.
Pas assez de personnel pour faire les tests, même quand il y a des tests.
Pas assez de personnel pour faire des tests. Il faut aussi, d'un autre côté, que les personnes qui sont symptomatiques continuent de se faire tester. C'est la seule façon pour nous de savoir si le virus circule. Or, avec l'idée que le virus est parti, les gens se disent s'ils ont des maux de gorge, un nez qui coule, etc., c'est probablement autre chose et ne vont pas se faire tester. Donc il faut réussir à s'organiser un petit peu mieux pour pouvoir utiliser à plein cette capacité de 100 000 tests par jour. Et puis que les personnes qui sont symptomatiques continuent de se faire tester, ça c'est très important.
Mais donc cette reprise-là dont vous nous parlez, ça n'est pas seulement sur la base de voilà plus de personnes testées positives parce que plus de tests.
Non, c'est pas simplement cela, parce qu'on peut le voir aussi en regardant le nombre des admissions à l'hôpital par jour, qui lui est un chiffre assez fiable au sens où les personnes, quand elles sont vraiment malades et qu'elles ont besoin d'être hospitalisées, elles finissent par aller à l'hôpital. Ce chiffre est à peu près stable, on est autour de 120 hospitalisations par jour. Néanmoins, ce qu'on voit et qui nous inquiète beaucoup, c'est qu'au début, le nombre de cas a augmenté chez les jeunes de 15 à 44 ans, puis on l'a vu augmenter maintenant sur toutes les tranches d'âge, et depuis une semaine chez les plus de 75 ans. Et c'est là qu'est notre vraie inquiétude, parce que on sait que les personnes les plus jeunes, quand elles seront infectées, vont faire des formes bénigne de la maladie, donc tant mieux, hein, c'est une des bonnes nouvelles de cette maladie, c'est que voilà, on n'a pas de forme sévère chez les sujets jeunes ou très rarement, mais de voir depuis une semaine chez les plus de 75 ans ce chiffre augmenter, c'est très inquiétant parce que ces personnes-là, elles, vont faire des formes graves pour un nombre important d'entre elles, et ça traduit aussi le fait que le virus a été probablement acquis par des jeunes dans des endroits festifs, on est en vacances, on se retrouve, etc. Mais qu'après, le virus a été ramené au foyer auprès de personnes plus âgées et qui, elles, sont à risque de faire des formes graves. Et c'est cette évolution en deux temps que l'on redoute particulièrement.
Karine Lefebvre, vous êtes aussi avec nous. Quel regard portez-vous sur ce moment que nous vivons, quand même particulier, c'est-à-dire déconfiné, avec des libertés en partie retrouvées, et en même temps, ce discours, cette menace qui plane, cette épidémie qui reprend, est-ce que l'on n'est pas là dans un équilibre un peu compliqué à trouver et à vivre, tout simplement ?
Oui, effectivement, votre expression d'équilibre difficile à trouver et le titre d'ailleurs de votre émission, La Juste Mesure, parle d'elle-même. Au sein c'est par là que je voudrais commencer, au sein du Comité Consultatif National d'Éthique, l'activité de réflexion a été très dense depuis le début de la crise sanitaire, puisqu'en fait, quasiment à chaque étape, le CCNE a rendu des avis et dans ces différents avis, il y avait cette question du confinement, de la relation aux autres, de la tension entre ces libertés, ces contraintes. Notre rapport à nos libertés a été complètement bouleversé pendant cette période. Et on a eu une attention et une vigilance tout à fait particulière vis-à-vis des plus fragiles à travers notamment le premier avis du 13 mars, mais aussi l'avis spécifique sur le confinement en EHPAD. On en reparlera, je pense.
Oui.
Tout à l'heure,
oui, oui.
Du 30 mars, et également le dernier avis sur le déconfinement du 20 mai. Donc, si vous voulez, on a d'ailleurs dans ce dernier avis attiré l'attention sur 9 points de vigilance et déjà on se projetait sur et demain. Et finalement, demain, on y est sans savoir vraiment où on va. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant d'entendre d'écouter les épidémiologistes pour voir leur analyse là-dessus. On est en train de réfléchir pour l'automne sur justement continuer notre réflexion sur ces questions-là, sur ces enjeux éthiques, parce que le questionnement éthique vraiment a été mis sur la table et fait partie intégrante du processus de réflexion et de décision politique.
Et va rester sur la table, a priori, encore un moment. Arnaud Fontanet, quelque part, si on nous dit on est revenu au niveau de sortie de confinement, alors pourquoi on reprend pas les mesures qui étaient en vigueur à la fin du confinement, sans parler de reconfiner, en tout cas pour le moment, par exemple sur les établissements qui accueillent du public, sur les trains, le 1 siège sur 2, par exemple, ça n'est plus en vigueur, alors qu'il y a beaucoup de monde dans les trains cet été. Finalement, au bout d'un moment, si on est si ferme et inquiétant dans les discours, pourquoi on n'adapte pas dans les actes?
Alors c'est intéressant parce que finalement, et ça revient sur le titre de l'émission et La Juste Mesure, on ne savait pas vraiment comment se transmettait ce virus dans la société française, dans ses activités habituelles. Pourquoi? Parce que la période de mars s'est allée extrêmement vite. On a basculé d'une insouciance généralisée à un état de crise majeur quand les services de réanimation du Grand Est et du Nord des hôpitaux de Paris ont été submergés par la vague de patients qui arrivaient. Et donc on est passé très brutalement à un confinement qui était nécessaire pour protéger ces services de réanimation sans avoir eu le temps de tester en vie réelle quelles étaient les mesures et la bonne dose des mesures qui permettaient de contrôler les virus. Ça, c'est ce qu'on fait depuis la sortie du confinement. C'est-à-dire qu'on a réussi avec le confinement à diminuer radicalement la circulation du virus sur le territoire français. Et puis vers la mi-mai, on nous dit, ça y est, on reprend progressivement, mais sans savoir jusqu'où le port du masque, les mesures barrières, les mesures de distanciation sociale très généralement sont nécessaires pour arriver à contrôler la circulation du virus. Donc on joue un petit peu avec ces différents paramètres. Et puis là, on se rend compte qu'on a mis le curseur un petit peu trop vers la liberté d'une certaine façon, au sens où on ne met pas assez de contrôle sur le virus et que maintenant, il faut qu'on déplace ce curseur parce que on lui laisse trop d'espace. Il y a quelque chose de fondamental à comprendre. C'est que pour que ce virus s'arrête de circuler spontanément, il faudra qu'au moins 50% de la population adulte ait été infectée. On en est à 5 à 10%. On a fait 20% du chemin. Et tant qu'on n'aura pas compris cela, on se dira à tort, le virus il est derrière nous. Mmh. Et maintenant, c'est la queue de l'épidémie, on va gérer ça. Non, on est pas au début de l'histoire, mais on est vraiment encore dans la première moitié, en tout cas, de l'évolution de cette épidémie qui pourrait se faire sur 2 ans. Avec peut-être un passage avec des accélérations saisonnières, parce que c'est un virus respiratoire, c'est un virus qui circulera mieux pendant l'hiver. On le voit très bien aujourd'hui quand on regarde la situation en Afrique du Sud, à Madagascar, en Australie. L'Australie avait très bien géré la première vague épidémique, 25 millions d'habitants, à peine plus de 200 morts. Ils attendaient, avec l'hiver qui est maintenant présent en Australie, des températures qui sont descendues en dessous de 10 degrés, ils attendaient la deuxième vague, ils ont été pris de court, Melbourne est confiné, ils s'interrogent aujourd'hui sur Sydney. Ça, c'est ce qui va nous arriver cet hiver. Et pourquoi ? Parce que 5 à 10% de la population affectée contre les 50% nécessaires. Donc, on va devoir apprendre à vivre avec ce virus. Pendant l'été, on est peut-être, parce qu'on vit dehors, parce que le virus n'aime pas la chaleur, capable de le contenir avec un niveau de mesure qui est un peu plus strict que ce qu'on a aujourd'hui, mais pas forcément très strict. Je suis très inquiet, en revanche, pour l'hiver.
Alors, nous parlerons de l'hiver tout à l'heure, pour rester encore un peu sur la période actuelle. Karine Lefeuvre, est-ce que c'est pas un peu dur, tout de même, là, dans les discours, cette fixation sur les jeunes, quand on voit les files d'attente en magasin, les plages, les cafés, les restaurants, les parcs, il n'y a vraiment pas que des jeunes qui sont attroupés, qui ne portent pas de masque. Est-ce que ça n'est pas un peu difficile de leur dire que tout est de leur faute, au moment où, en même temps, on leur dit aussi qu'ils sont ceux qui vont payer le plus les conséquences du confinement?
En fait, j'ai envie de rebondir sur un mot qu'a utilisé Arnaud Fontané, c'est le très beau mot d'insouciance. Et en fait, le challenge, c'est de passer de l'insouciance à la prise de conscience. Et on a beaucoup entendu parler à la fois à travers les mots du Conseil scientifique, mais aussi du CCNE, et pas que, de la responsabilité nécessaire et de l'adhésion, l'acceptabilité par la population. Et c'est vrai qu'on cible aujourd'hui les jeunes, parce qu'on ne peut pas leur reprocher qu'à la base de vivre le moment présent, de ne pas se projeter, en tout cas d'avoir la difficulté de se projeter. C'est complètement logique et naturel. Et pourtant, tout est dans le « et pourtant », le risque existe, et notamment de diffusion auprès de ses proches. Quelque part, si on n'est pas touché dans sa famille, comment faire pour comprendre ? Donc, le défi, il est là. Il est sur le fait de ne, de cette prise de conscience par les plus jeunes, ceux qui se sentent peut-être les moins vulnérables, les moins atteignables, et puis cet enjeu de cohésion et de solidarité, de se dire mais quelle voie trouver pour faire passer ce message, parce que finalement, comme vous le disiez tout à l'heure, tout le monde en parle de ce virus, tout le monde en parle, mais finalement c'est à des curseurs et à des géométries variables.
Est-ce que vous dites prise de
juste un exemple que...
Allez-y.
Pardon, je vous donne juste un petit exemple que j'ai vécu dans une rue de Rennes il y a quelques jours. Au début de la rue, un gros attroupement avec des jeunes en train de discuter, voilà. Et puis deux restaurants plus loin qui respectaient très très scrupuleusement la distance. Donc voilà, le challenge, c'est de traverser la rue et que ce curseur soit identique, quelles que soient les populations.
Oui, ce que vous dites, prise de conscience, en même temps, ça fait plusieurs semaines déjà là qu'on nous dit attention, attention, ça repart. Et justement, comment gérer cette parole ? Parce que le risque, au fond, à force, c'est que l'on s'habitue à entendre ça un peu comme une musique de fond et que l'on n'y prête plus attention peut-être au moment où cela devient encore plus important de l'entendre.
Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est le rapport à la peur, à l'angoisse. On a tous été interrogés, on a tous ressenti à des degrés différents. Et il y en a pour certains qui c'est une simple inquiétude, d'autres qui en rient, d'autres qui ne sont pas conscients et d'autres qui ont effectivement très peur. Finalement, c'est ce qu'on soulevait dans notre dernier avis du 20 mai. Vraiment, j'incite tous les auditeurs à aller consulter le site du CCNE. Tous ces avis sont à lire, et c'est dans ces recommandations, il y avait aussi des points de vigilance, et notamment le rapport à l'autre, le vivre ensemble. Et d'ailleurs, ça me fait penser penser à la devise à la question clé des états généraux de la bioéthique en 2018, c'est quel monde voulons-nous pour demain? Et quel monde voulons-nous pour demain, c'est comment peut-on apprendre à vivre ensemble et prendre conscience de façon identique. Alors ça se fait par étapes et c'est vrai que c'est en donnant des chiffres régulièrement, en attirant l'attention de façon très pédagogique, parce qu'il y a un enjeu vraiment de pédagogie de la communication. Il y a une éthique de la communication. C'est aussi ce qu'on a appuyé, parce qu'on a aussi entendu des discours très très différents, beaucoup de polémiques, beaucoup de voilà. Je pense qu'il faut retrouver un peu de sérénité et les choses vont se faire. Ça prend un peu de temps, effectivement, oui. Des degrés différents, mais les choses vont se faire. En tout cas, on peut espérer que ça aille dans ce sens-là.
Oui, et puis des ruptures dans le discours aussi, Arnaud Fontanet. C'est-à-dire qu'à la fin du confinement, il y a eu quand même une grosse accélération, ou vraiment l'accélération de la reprise, quoi. La priorité, c'était de relancer la machine, retourner au travail, consommer, etc. C'est aussi ça, peut-être, qui a donné l'impression que c'était derrière nous. Et puis là, arrive l'été, et puis on nous dit, attention, tout est de votre faute, tout repose sur vos épaules. Comment on gère cette parole publique aussi pour qu'elle soit acceptable, entendue, et qu'on n'ait pas l'impression ni d'être infantilisé, ni culpabilisé.
Alors, il y a finalement un décalage entre des scénarios qui sont un peu construits. Moi, je dirais même dans ma tête, je vois, j'espère raisonnablement bien, ce qui peut arriver, ce que je vous expliquais entre le décalage entre le nombre de personnes déjà infectées et le nombre qu'il faudrait pour que l'épidémie s'arrête. Le fait aussi qu'on sait contrôler ce virus d'une certaine façon quand même, puisqu'on a appris les gestes barrières, le port du masque, on est en train de le généraliser dans les lieux clos parce qu'on sait qu'il peut y avoir des transmissions par des aérosols. Il y a un progrès à faire très net dans toute la partie dépistage, traçage et puis isolement, qu'on n'a pas encore pu expérimenter en période de crise, hein, finalement. On a, une fois de plus, le confinement nous a évité tout ça. Mmh. Et autant, je crois que sur les gestes barrières et le port du masque, les Français, maintenant, ont bien compris ce qu'il faut faire. Et si la situation devenait critique, seraient capables de réadopter toutes ces mesures, et puis les masques, on les a aujourd'hui. Autant sur la partie tester, dépister, tracer, on a les tests, hein, on peut faire 100 000 tests par jour. En revanche, le caractère opérationnel du déploiement de ces tests qui s'adresse pas simplement d'ailleurs aux personnes qui sont symptomatiques, mais aussi à des populations oubliées. Hein, il y a des situations très critiques dans les EHPAD où si le virus est introduit, il se répand très vite et sans être visible au début. Il y a des populations en situation de précarité qui, elles aussi, sont très vulnérables et ne seraient pas en mesure d'aller se faire dépister si elles étaient touchées. Donc il y a aussi toute une façon de penser le dépistage à mettre en place pour être sûr de ne pas laisser d'angle mort. Et cette deuxième partie, elle m'inquiète parce qu'on n'est pas encore vraiment opérationnel dessus. Mais les outils, on les a. Donc, d'une certaine façon, il faut se dire, on est face à un ennemi qui n'est pas si invisible que ça. On est capable de le mesurer. On a une surveillance, hein, on a des indicateurs. Et puis, on a des outils. Et il faut qu'on se responsabilise en se disant, l'enjeu pour nous, finalement, c'est de faire face. Et avec ces outils, de se dire qu'effectivement, à l'automne, on ne veut pas retourner sur un confinement qui serait pas supportable, mais on veut jouer sur toute la palette de ces outils dont on dispose pour contrer le virus et continuer à avoir une vie sociale et économique. La seule partie qui est un tout petit peu difficile actuellement, c'est que dans la dynamique d'une épidémie, le démarrage est très lent, mais il est exponentiel. Et quand on est dans la phase lente du début, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on voit rien. Les chiffres ne parlent pas, ils restent relativement stables, etc. Et puis, il y a une accélération. Et puis, quand ça accélère, là, ça devient très difficile de réagir. On l'a vécu très douloureusement pendant cette première quinzaine de mars où on a tous été pris de court par le tsunami qui nous est tombé dessus. Et on ne voudrait pas revivre ça. Donc, c'est maintenant, quand le virus est encore à un niveau de circulation relativement faible, qu'il faut être très ferme parce que c'est la meilleure chance de le contrôler. Et puis de se dire, c'est un enjeu pour nous collectivement, solidairement, d'utiliser tous les outils qu'on dispose pour contrôler
très rapidement, justement, les outils Stop Covid, l'application qui a tant fait parler d'elle, si elle fonctionne bien, c'est peut-être le moment de l'utiliser, là, justement.
Ça fait partie des outils, certainement, hein, tester, tracer, isoler. Pour le traçage, Stop Covid viendra en complément du reste. Il y aura toujours un traçage individuel qui se fera avec un questionnaire, les contacts, etc. Mais il y a le voisin de métro, le voisin de train, le voisin d'avion. Celui-là, on n'est pas capable de l'identifier. Stop Covid pourra y aider. Nos partenaires européens, dans plusieurs pays, atteignent des taux d'utilisation de 30 à 40% de ce type d'application. On est à 2% en France.
À condition, là aussi, évidemment, de savoir instaurer la confiance nécessaire pour l'utilisation de ce genre d'outils, les questions que ça peut poser. Merci Arnaud Fontanet, directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur à Paris. Karine Lefeuvre, présidente par intérim du Comité consultatif national d'éthique. Nous vous retrouvons après le journal de 8h et la chronique de Libération pour poursuivre cette discussion et évoquer la suite, ce que l'on peut en dire, en tout cas à ce stade, avec notamment ces plans de reconfinement à l'étude. Le journal dans un instant.
France Culture, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Reprise et peur de reprise de l'épidémie, comment trouver la juste mesure? Nous retrouvons nos deux invités, Arnaud Fontanet, directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur à Paris et membre du conseil scientifique, et Karine Lefeuvre, présidente par intérim du comité consultatif national d'éthique, professeur à l'école des hautes études en santé publique. Nous avons parlé avant 8h de la situation actuelle de cet été, des risques de reprise, de la difficulté à trouver le ton juste pour la parole publique, les autorités, des questions que cela pose dans nos rapports aux autres. Arnaud Fontanet, au-delà de l'été, donc la suite, Jean Delfraissy, le président du conseil scientifique, nous dit que l'hypothèse la plus probable est l'arrivée d'une deuxième vague pour octobre, novembre, décembre. Vous nous avez dit à peu près attendre la même chose tout à l'heure. Alors très clairement, on sait qu'il y a des plans de reconfinement à l'étude, que l'objectif c'est de ne pas reconfiner tout le monde, quoi qu'il arrive. Donc quels sont ces plans? On parle de confinement ciblé, c'est-à-dire par zone géographique, par population?
En fait, il y a deux scénarios possibles. Un qui est ce qu'on appelle des clusters critiques, c'est un nombre très élevé d'infections dans un endroit, ça peut être une entreprise, on l'a vu en Allemagne récemment avec un abattoir avec plus de 1500 personnes infectées. Et donc là, on confine cette population plus les environs, parce qu'on sait où ces personnes vivent, etc. Et on doit et puis on teste massivement dans cette région, donc ça c'est des confinements localisés. Ça pourrait être une région de France où le virus se met à circuler de plus en plus activement, et là on pourrait imaginer aussi proposer donc des confinements qui seraient limités à cette région. Tout ça parce qu'il existe ailleurs les moyens de se protéger et donc d'éviter une diffusion du virus. Et puis, ce qu'on veut effectivement éviter à tout prix, c'est le confinement généralisé qu'on a dû mettre en place en mars dernier, parce que là, il y avait un risque d'épidémie en fait qui était général sur le territoire national. On n'avait pas les masques, on n'avait pas les tests. On voyait que l'épidémie était très active dans le Grand Est et l'Île-de-France, mais les autres régions étaient déjà aussi en train de décoller. Donc là, le confinement généralisé a été nécessaire.
Et donc confinement par population?
Alors confinement par population, il faut pas trop se leurrer là-dessus, au sens où il y a des scénarios où on dirait les personnes vulnérables, les personnes de plus de 65 ans confinées. En revanche, les autres économiquement actifs vont continuer. Et ce qu'on sait, c'est que le virus, il va, si on ne prend pas des mesures très strictes et très générales, le virus, il va commencer à décoller. Et par ricochet, ces personnes vulnérables vont être touchées à terme. Donc vraiment, c'est un scénario qui, pour moi, n'est pas envisageable, même s'il est séduisant. En revanche, de dire aux personnes qui sont de plus de 65 ans et aux personnes vulnérables d'être extrêmement prudents et de choisir de se protéger elles-mêmes, oui, ça peut avoir du sens, parce que elles, si elles sont infectées, elles sont à risque de forme grave.
Et Karine Lefeuvre, au-delà de l'efficacité, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est envisageable, vu de la place qui est la vôtre au comité consultatif d'éthique, de mettre en place un confinement ciblé des personnes vulnérables, à commencer par les personnes âgées?
Alors en fait, j'ai envie de repartir du titre de la note du Conseil scientifique du 27 mars qui disait « Les EHPAD, une réponse urgente, efficace et humaine ». Et j'ai envie de dire, tout est dans le « et », et humaine. Et on a repris ça d'ailleurs à la fois dans un bulletin de veille de mars au niveau du Comité consultatif national d'éthique, mais aussi dans la réponse à la saisine du ministre de la Santé, Olivier Véran, vraiment spécifiquement sur ce confinement généralisé. Et on avait beaucoup insisté dès cette époque-là, on était encore au presque début de la crise, sur l'importance de faire attention au risque affectif de l'isolement qui pouvait s'ajouter au risque épidémique, au sentiment qui pouvait naître d'une certaine discrimination, d'une sorte de confinement, ce que j'appelle moi un confinement au carré, c'est-à-dire un confinement dans le confinement pour ces personnes extrêmement vulnérables en établissement. On a d'ailleurs beaucoup parlé des personnes âgées, mais il y a aussi les personnes en situation de handicap. Voilà. Donc en fait, cette attention extrêmement forte à la dimension humaine, elle doit être importante pour toute la population, mais encore plus pour ces personnes qui sont isolées. Alors ça peut être aussi à domicile, mais aussi en établissement.
Mais donc pour vous, le confinement par type de population ou par classe d'âge, notamment, ça n'est pas une bonne idée.
Ben, c'est pas une bonne idée. Enfin, c'est ce que s'expliquait Arnaud Fontané juste avant. Mais nous, en tout cas, au comité d'éthique, ce sur quoi on insiste, c'est le fait que, bien sûr, que dans un état d'urgence sanitaire, il y a des restrictions nécessaires, qui doivent être strictement encadrées pour protéger la population. Mais malgré tout, il faut absolument continuer de respecter les exigences fondamentales de l'accompagnement et du soin, c'est-à-dire le respect de la dignité, le droit au maintien d'un lien social. Ça veut dire que il faut accentuer l'attention si jamais on devait arriver à un reconfinement dans certains EHPAD, ce qui commence à se produire,
Bretagne,
un confinement ciblé, parce qu'il y a un risque déterminé. C'est vraiment de réfléchir à toutes les solutions qui peuvent maintenir ce lien, qui continue de faire d'être la raison de vivre de ces personnes-là. Parce que finalement, on pourrait aboutir à une situation presque insensée où pour protéger, pour peut-être une situation de surprotection, on en arriverait en fait à faire émerger un risque encore plus grand de fin de désir de vie pour des personnes qui se diraient finalement, si j'ai plus de contact, quel sens a encore ma vie. Donc voilà, vous voyez, on retombe vraiment sur le titre de votre émission, cette notion de juste mesure, de juste dosage. C'est vraiment un équilibre assez complexe à trouver. Ça me fait penser à l'expression de pédagogie de la complexité qu'on avait utilisée dans notre dernier avis du 20 mai.
Arnaud Fontanet, justement, cette dimension affective, cette question éthique aussi vis-à-vis des personnes âgées, elle se pose, y compris là cet été, par exemple, quand on retourne en famille, qu'on est en contact avec des personnes âgées qu'on n'a pas vues depuis des mois. On voit bien que parfois, ce sont elles qui veulent absolument embrasser leurs enfants, leurs petits-enfants. À partir de quel moment on leur fait plus de mal ou de bien en refusant ça? Comment on mesure ça finalement?
C'est évidemment une question très délicate, très personnelle. C'est une espèce d'évaluation de risque que les gens veulent faire, mais quand l'émotion et l'affection s'en mêlent, le jugement se brouille un petit peu. Donc je voudrais pas être trop dur là-dessus parce que je pense que les personnes âgées ont beaucoup souffert du confinement et d'être séparées de leurs petits-enfants, par exemple. Alors après, il y a des mesures très simples quand même à respecter. C'est que si un enfant a le moins de symptômes, etc., là, vraiment, il faut le garder à distance. S'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, on se fait des câlins, mais on se fait des câlins en se prenant dans les bras, mais pas en se touchant le visage, on se parle à distance quand même. Enfin, voilà, je crois qu'il faut trouver un peu une juste mesure. Et actuellement, mais je comprends très bien ce désir réciproque des plus âgés et des plus jeunes de se retrouver. Je pense qu'il faut aussi, et on l'a dit, vraiment faire renaître cette notion de solidarité. Ce que je crois on a déjà oublié, c'est qu'on est devant la crise sanitaire la plus grave, due à une maladie infectieuse, depuis la grippe espagnole, si je mets de côté le sida, qui avait une expression très différente. Et on a voulu oublier trop vite. Or, malheureusement, comme je vous le disais tout à l'heure, on est encore au début de cette crise. Je voudrais pas terminer sur un message trop pessimiste parce que finalement, la stratégie qu'on est en train de suivre, c'est une course contre le temps. Le temps pour avoir un traitement efficace qui permettrait d'éviter les formes graves, les passages en réanimation et les décès. Ou le temps pour avoir un vaccin qui permettait de protéger une grande partie de la population.
Et oui, mais ça, vous avez dit récemment encore, il y en a encore pour un moment, a priori, avant d'avoir.
Alors, sur le traitement, je serais pas surpris qu'à l'automne, on commence à avoir des traitements réellement efficaces pour prévenir les formes très graves, qu'on pourrait donner à des personnes hospitalisées, par exemple, et qui leur éviteraient le passage en réanimation, ce qui serait déjà remarquable, parce qu'on éviterait vraiment les formes graves, les séquelles et les décès. Alors, pas pour tout le monde, les traitements sont jamais 100% efficaces, mais là, on commence à voir des molécules vraiment intéressantes qui se profilent, qu'il faut encore continuer à tester. Et il y a eu récemment une compagnie anglaise qui a, sur un tout petit essai, mais qui était contrôlé, montré que l'interféron bêta pouvait limiter. Alors, il faut voir le papier. Pour l'instant, ça n'a pas encore été publié, donc il faut rester très prudent. Mais la piste est intéressante parce qu'elle correspond à une base physiopathologique. Et on sait aussi qu'il y a des molécules contre ces fameuses cytokines inflammatoires de cet orage, vous savez, inflammatoire de la deuxième semaine, qui sont en train aussi de voir le jour. Donc là, j'espère qu'à l'automne, on commencera à avoir des traitements. à, pour 2021, peut-être des vaccins d'abord bien tolérés. C'est la priorité parce que c'est des vaccins qu'on donne à des gens qui sont bien portants et partiellement efficaces. Et il faut comprendre qu'on est sur une course contre la montre. Donc on a les outils pour se protéger, on l'a déjà développé. Et en parallèle, on développe des traitements et des vaccins. Et j'espère qu'on arrivera comme ça à atténuer l'impact de cette crise.
Karine Lefeuve, pour terminer, en attendant d'avoir ce traitement, peut-être ces vaccins, a-t-on déjà assez de recul ? Est-ce qu'on a eu le temps et pris le temps d'analyser ce qui s'est passé pendant le confinement pour savoir comment mieux faire les choses s'il fallait y revenir ? Et est-on prêt aussi peut-être à avoir un débat qu'on n'a pas eu le temps d'avoir en mars sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, les mesures qu'on prend, je veux dire un débat vraiment engageant la société, quoi.
Alors en fait, c'est le temps de la réflexion. Il y a déjà eu beaucoup d'analyses qui ont été faites et vous voyez qu'il y a eu à chacune des étapes beaucoup de réactions des différentes instances et là vraiment le comité d'éthique a aussi été assez productif, c'est moins qu'on puisse dire. Ce qui est sûr, c'est que on a encore sous-estimé largement l'importance d'un échange avec la population et ça a été dit à plusieurs reprises, peut-être que ça finira vraiment, en tout cas le CCNE appelle à ce sens, à une sorte de mise en place d'un forum citoyen pour essayer d'échanger avec la population sur leur perception. C'est sans doute une des clés qui permettra de mieux comprendre les choses et d'obtenir cette adhésion, pas uniquement des jeunes dont on parlait tout à l'heure, mais aussi de toutes les catégories de population. Voilà, y compris des familles, on parlait des EHPAD, y compris des familles dont il ne faut pas sous-estimer le désarroi. Mais il faut aussi appeler à leur vigilance et leur responsabilité.
Merci beaucoup Karine Lefeuvre, présidente par intérim du Comité consultatif national d'éthique, professeur à l'École des hautes études en santé publique. Et merci à vous, Arnaud Fontanet, directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur à Paris et membre du Conseil scientifique. Il est 8h30.